RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, je retrouve nos trois habitués. Soufiane Sadi, PDG du groupe Atome, bonjour.
Bonjour Gaël.
Pierre Clément, directeur de Nexvia, bonjour.
Bonjour Gaël.
Et Julien Licheron, chercheur du LISER.
Bonjour Gaël.
Bonjour Julien. Comment allez-vous?
Bah, très bien,
ça va,
je crois.
Toujours content.
Oui, toujours content d'être ici.
Voilà, donc on se retrouve quelques semaines après la publication du logement en chiffres. On va donc forcément en parler. Cette publication, vous y avez activement participé, Julien. En dehors de la chute générale des prix en 2023, quelle tendance faut-il souligner ?
Alors c'est vrai que c'est le moment de tirer un peu le bilan de cette année 2023 qui a été particulière, qui a été même inédite dans l'histoire immobilière, je dirais, du Luxembourg. Alors en général, j'analyse successivement les volumes d'activité et ensuite les prix, mais là je propose d'analyser un peu ou de décrire un peu les deux en même temps, parce que je crois que c'est important d'analyser les évolutions de prix en regardant en même temps les volumes. Mmh. Et du coup, ce qu'on va plutôt distinguer, c'est deux marchés qui se comportent de manière très différente. D'un côté l'ancien et de l'autre le neuf, et on a vraiment des évolutions qui sont très contrastées sur ces deux marchés. Sur le marché de l'existant, je dirais qu'on a quand même toujours un marché avec certes une baisse assez significative du volume d'activité en 2023 par rapport à l'année précédente, mais on a quand même un maintien d'une activité soutenue. Pour vous donner un chiffre concret, sur les appartements anciens, on a moins 28% d'activité au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc on a une baisse significative de l'activité, mais on a quand même un nombre de transactions qui n'est pas négligeable et on a un marché qui existe. Alors évidemment, on a eu un ajustement qui a été fait du coup par les prix. Mmh. Et c'est surtout pour cette raison qu'on a toujours une activité soutenue. C'est parce qu'on a eu cet ajustement par les prix et que progressivement, les attentes des vendeurs et des acheteurs se sont rapprochées. Pour donner là aussi un chiffre un peu concret, sur les appartements anciens, on est à moins 14,5% au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022. Et sur les maisons anciennes, on est à moins 18,8%. Sur la même période, donc c'est quand même significatif. Et par rapport au pic, donc par rapport à, disons, juin-septembre 2022, on est aujourd'hui à moins 21%, par exemple, pour les maisons anciennes. Mmh. Donc on a vraiment eu un ajustement conséquent, maintenant, sur les prix de l'ancien. Alors à côté de ça, on a un deuxième marché, un autre marché très différent, c'est le marché de la vente en état futur d'achèvement, donc les nouvelles constructions, où là, on a un marché qui n'existe quasiment plus, ou qui est vraiment réduit à peau de chagrin, puisque pour le quatrième trimestre 2023, on parlait d'une centaine de transactions pour tout le pays sur des appartements en construction.
C'est un niveau historiquement bas.
Et de loin, c'est très très inférieur à ce qu'on peut avoir. Sur l'ensemble de l'année 2023, on est environ à 500 transactions, là où sur une année normale, on est plutôt à 2500. Mmh. Donc on a vraiment une division par 4-5 du nombre de transactions. Mmh. Et du coup, c'est difficile, je dirais même, d'interpréter les évolutions des prix, parce qu'on est sur un tout petit marché. Alors les prix globalement se sont ajustés de moins 7,7% au quatrième trimestre 2023 par rapport au même trimestre de l'année passée. Mais voilà, c'est compliqué d'analyser ces phénomènes. On a aussi des promoteurs qui ont des systèmes de contractualisation qui ont pu changer, qui peuvent offrir aussi des choses en complément qu'on ne voit pas forcément très bien dans l'indice des prix. Donc en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'ajustement par les prix est beaucoup moins important sur le marché de l'existant, et que le marché reste très limité encore aujourd'hui.
Donc nous évoquions en début d'année une possible reprise en 2024. Nous sommes maintenant quasiment au mois de mai. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous voyez déjà des signes de reprise sur le marché, Pierre, vous qui êtes sur le terrain?
Oui, on voit le marché être un peu plus actif. Comme le disait Julien, néanmoins, en 2023, on a eu quand même du volume, hein, des niveaux quand même nettement inférieurs par rapport à ce qu'on connaît normalement. Mais on voit depuis le début de l'année une activité un peu plus soutenue qui est aidée par une légère baisse des taux d'intérêt à long terme qui ont baissé d'environ 0,5%. Et 0,5%, ça vous fait regagner du pouvoir d'achat et ça resolvabilise des emprunteurs, des futurs acquéreurs qui ne pouvaient plus avoir accès. Il faut comprendre aussi que c'est maintenant couplé donc avec une baisse notable dans l'existant des prix de l'immobilier. Donc si vous cumulez la baisse des prix de l'immobilier d'environ 20% avec une petite baisse des taux d'intérêt long terme et aussi une indexation sur les salaires qui a néanmoins eu lieu hein, depuis le début de l'explosion des taux. On retrouve aujourd'hui en fait un pouvoir d'achat qui est pratiquement similaire à celui du début de l'augmentation des taux pour les particuliers. Donc nous, on s'attend à ce que cette tendance continue et qu'on retourne en tout cas sur l'existant, sur une situation plus normalisée au niveau des transactions, voilà.
Alors d'après mes informations, hein, vous me corrigez si je me trompe, la situation n'a pas beaucoup évolué sur le marché du neuf. Je sais que vous travaillez particulièrement sur le marché existant. Est-ce que les feux sont toujours au rouge dans la construction ou est-ce que les choses se sont mises à bouger ?
En tout cas, clairement sur base des volumes et le dernier trimestre, comme l'a mentionné Julien, on a un ajustement qui s'est fait par les volumes. Maintenant, sur les prix qui sont annoncés, on a regardé sur le premier trimestre 2024. Et pour la première fois, on voit que les prix sur le neuf diminuent. En tout cas, les prix annoncés sur un tome diminuent de manière aussi importante que sur l'ancien. On est aux alentours de 9% pour le neuf et moins 10% sur l'ancien, pour une baisse des prix sur le premier trimestre entre 9 et 10%. Mmh. Donc, est-ce qu'il y a un ajustement des prix qui est en train de s'amorcer et qui... Je ne sais pas s'il va se concrétiser, ça c'est une question, qui va pouvoir inverser un petit peu cette tendance sur les volumes. Maintenant, 2023 a été une année très compliquée sur toutes les transactions, 80% sur l'ancien, 20% sur le neuf. Donc ça, c'est du jamais vu. L'autre point que Julien a mentionné, c'est cette baisse. Alors, ce n'est pas la première fois que les prix baissent au Luxembourg. On est à la fin d'un cycle, il y a déjà eu des baisses. Mais de cette amplitude, je pense que... c'est du jamais vu, peut-être il faut revenir jusqu'à 1975 pour voir ça. Donc c'est une baisse qui est très importante, on est à la fin d'un cycle. 2023, je pense, c'est un peu l'année, c'est la fin du cycle. 2024 peut être l'année de transition qui va amorcer un nouveau cycle. Mais clairement, je pense qu'il faut réfléchir à structurellement qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire repartir le secteur. Et au-delà de ça, je veux dire, parler des constructeurs, c'est une chose. Mais c'est important de parler de tout l'écosystème autour de l'immobilier. C'est des ouvriers de la construction, c'est des ingénieurs, des architectes. Je ne parle même pas des agents immobiliers. Donc c'est tout un écosystème qui est en train de souffrir. Et c'est compliqué, donc il faut le refaire, je dirais, refaire démarrer, relancer le cycle et sortir de 2023 avec une transition en 2024 et pourquoi pas une relance
donc,
plus tard.
Oui, bien. Julien
Je rebondis hein, sur en effet le point sur qu'est-ce qu'il change au niveau de la VFA. On a de notre côté en fait des chiffres de transactions qui proviennent de nos partenaires bancaires et qui ont l'avantage d'être en ligne avec le timing actuel. Ce qu'on voit sur le premier trimestre, c'est que le nombre de transactions sur la VFA reste extrêmement faible.
Okay.
Et on a une volatilité des prix qui est assez importante, qui peut être liée à des stratégies de certains promoteurs de se défaire de certains biens, donc d'accepter des baisses importantes, d'autres non. Et vraiment, c'est du cas par cas de ce qu'on peut comprendre. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez de transactions pour que les chiffres qui viennent chez nous
soient
représentatifs. Mmh. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour le moment, la dynamique n'est pas enclenchée. Enfin, en tout cas, nous, on ne peut pas vous dire quelle est la dynamique sur la VFA. Et je pense que c'est dans les mois qui viennent, après notamment le passage dans le cadre législatif des mesures fiscales qui ont été annoncées fin janvier, qui sont néanmoins rétroactives.
Ouais.
Mais bon, tout investisseur, je pense, il cherche à avoir une certaine assurance que ça va être voté avant de s'engager sur des investissements qui sont pour tous, tout investissement immobilier au-delà d'un demi-million d'euros au Luxembourg. Par contre, ce que je peux vous dire sur l'existant, c'est que là, on a aussi des chiffres qui nous montrent que les prix semblent se stabiliser. Sur un nombre de transactions qui est là largement représentatif et même une reprise légère du volume de transactions pour arriver à des volumes un peu plus hauts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, on peut dire qu'en tout cas, la dynamique de prix semble se stabiliser sur l'existant. Il y aura probablement même une petite dynamique positive, mais très légère. Mais en tout cas, on peut... penser clairement que 2024, ça sera le point d'inflexion sur l'existant. Ça, j'en suis à 90% sûr.
Julien, vous vouliez...
Oui, juste pour rebondir sur ce qu'ont dit mes camarades. Effectivement, je pense aussi que la reprise sur l'existence est quelque chose qui se profile. Comme le disait Pierre, on a retrouvé de la capacité d'achat qu'on avait perdu avec la hausse des taux, pour les différentes raisons qu'il a pu évoquer. Et effectivement, je ne serais pas du tout étonné qu'on ait un retour à une activité assez soutenue pour l'année 2024, probablement pas si loin de celle qu'on avait en termes de nombre de transactions, de celle qu'on avait avant le déclenchement de cette crise. L'ajustement par les prix, il est quand même significatif. On disait tout à l'heure moins 21% pour les maisons anciennes, c'est quand même une baisse assez conséquente. Et mon interrogation, elle porte sur l'écart de prix qu'on va retrouver aujourd'hui entre l'ancien et le neuf. Je ne vois pas comment il est possible qu'on n'ait pas un ajustement plus significatif sur les prix du neuf, parce que sinon ça va être compliqué pour beaucoup d'acquéreurs de se positionner sur du neuf avec un surcoût qui sera quand même considérable. Comparativement à l'ancien, sur lequel on a eu quand même un ajustement très fort des prix.
Après, l'ajustement, donc, juste peut-être sur ce point, l'ajustement des prix en 2023 vient après quand même 2-3 années de surchauffe. On a eu des augmentations à base de 14-15%, largement au-dessus de ce qu'on peut voir dans d'autres pays ou par rapport à des moyennes européennes.
Oui,
c'est 2023 s'ajuste. Après, effectivement, le risque, je pense, c'est que ce report sur l'ancien aujourd'hui, à un moment, le stock, il faut l'alimenter. Un bien ancien, d'abord, a été un bien neuf. Mais du coup, s'il n'y a pas de transaction sur le neuf, on va retomber dans le même problème qu'on a eu et qu'on a discuté il y a 2-3 ans, qui a fait qu'on s'est interrogé sur est-ce qu'il y avait une bulle immobilière. Et il y a juste cette crainte, effectivement, si le neuf ne redémarre pas, bah, effectivement, la demande va revenir, les taux se stabilisent et baissent. Mais c'est juste un report au final du problème qui ne résout pas le problème de fond qui est structurel. On a un dynamisme économique, c'est accompagné d'une augmentation de la population, demande du logement, ça c'est des choses positives. Mais derrière, si on revient à ça, on va probablement retrouver les mêmes problèmes.
Pour donner une illustration de ce que disait Soufiane là, effectivement on a eu une baisse assez significative des prix. Mais ça signifie quoi ? Ça signifie que l'indice des prix hédoniques que propose le Statec aujourd'hui, il est revenu au niveau de fin décembre 2020. Donc on a eu une baisse très importante des prix, mais on est juste de retour au niveau de la fin d'année 2020. Donc c'est quand même... c'est bien pour montrer qu'on avait eu très très fortes augmentations de prix jusqu'en 2020 et même après.
C'est l'année record d'ailleurs, 2020. 2020, c'était quoi ? Plus 17 ?
Je crois que c'était...
Croissance record.
Sur l'année 15.
Plus 17%, bon, c'est des chiffres qui sont colossaux. Hein.
Mm-hmm. On avait fait chez nous une conférence en octobre 2021, en alertant sur déjà le niveau de prix. On avait intitulé cette conférence « Croissance record, risque record ». Donc déjà, même avec des taux...
C'est un peu matérialisé.
Voilà, et c'était dans un environnement de taux qui était encore extrêmement bas. Et donc évidemment, l'explosion est arrivée avec celle des taux.
Mm-hmm. Oui, c'est comme le disait Soufiane, on est sur des cycles. Ce cycle-là, il s'était emballé nettement entre 2017 et 2021. Aujourd'hui, on en paie quelque part un peu les conséquences. Et après, ça illustre quand même quelque chose d'important, je pense. Je pense qu'il est nécessaire qu'on ait un retour à une vraie offre pour le neuf, parce que sinon on va retomber sur un déficit en logement qui sera considérable, parce que la demande au Luxembourg, elle est toujours là. On a toujours une demande de la part des accédants à la propriété qui veulent s'installer au Luxembourg.
Oui, entre 10 et 12 000 résidents par an qui s'ajoutent à la population existante. Ouais.
Donc et ça, c'est important.
Très peu de construction.
Par contre, ce que la crise nous a montré, c'est que l'augmentation des taux très importante, elle a empêché un certain nombre d'accédants à la propriété d'aller vers l'accession. Si aujourd'hui les prix ont augmenté de 20 à 30% sur 4-5 ans, on retrouverait le même problème. C'est-à-dire on aurait une perte de capacité d'achat de 20, 30 ou 40%, et à ce niveau de prix, on n'a plus de demande.
On arrive au plafond. Ouais. Donc, vous en avez parlé, hein, le nouveau gouvernement a dévoilé donc, en janvier une série de mesures censées relancer la construction de logements. Parmi ces mesures, il y a une bonne partie des incitatifs financiers et fiscaux qui seront révoqués déjà à la fin de l'année 2024. On est quand même déjà quasiment en mai. Est-ce que vous y avez un peu répondu, mais on n'a pas vraiment vu de rush sur le marché depuis, en tout cas pas sur le neuf, que ce soit les primo-accédants ou les investisseurs. Ça n'a pas encore eu d'effet, en fait.
Alors, il y a, je crois, la garantie que ça passe dans le cadre législatif, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Et je pense que tout le monde doit y mettre du sien. Et je pense que le gouvernement a mis en place un nombre de mesures significatives dont les investisseurs devraient, à mon avis, profiter, parce que la fenêtre est courte et que certains peuvent en profiter beaucoup, notamment ceux qui ont des anciens appartements qu'ils ont hérités ou qu'ils ont acquis depuis des décennies et qui, probablement, d'ailleurs, dans la nouvelle réglementation du bail à loyer, le loyer qu'ils touchent ne sera peut-être pas en ligne, d'ailleurs, avec ce qu'ils pourraient recevoir en réalité, parce que si on applique la vraie règle du 5% sur un capital investi qui a été investi en 70 et réévalué avec des faible taux, il va y avoir peut-être beaucoup de dossiers qui vont être sur la table de la commission des loyers. Donc il y a une fenêtre de tir qui est exceptionnelle là pour ces gens-là de vendre et de racheter des biens neufs pour lesquels ils vont profiter de l'amortissement accéléré à 6% qui a été réintroduit et qui permet de réaliser des économies fiscales très très importantes. Mmh. Et là, ça a été pratiquement déplafonné vu qu'on peut réinvestir jusqu'à 10 millions d'euros. Donc on compte évidemment sur ces gros investisseurs pour faire bouger les choses. C'est une chose, les mesures fiscales. Et tout le monde peut en profiter, pas que les gros d'ailleurs, les plus petits investisseurs qui veulent épargner, qui veulent placer leur épargne dans un appartement, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et on a besoin de ces gens-là aussi, en fait. Et on a, ces investisseurs ont un rôle social pratiquement au Luxembourg, puisque c'est eux qui mettent du logement sur le marché. Par contre, il faut aussi que, y a deux éléments qui vont faire bouger les choses. C'est la baisse des taux qui va commencer à s'engager. Alors, elle va pas sur les fixes, ça va pas bouger beaucoup. Il faut pas s'attendre à ce que ça bouge beaucoup. Mais par contre, sur les parties variables, 2024 et 2025 va être plus agréable, hein, puisqu'on s'attend quand même à des baisses plus importantes. Mais, et le dernier, donc les banques vont aider avec la baisse des taux à aussi faire revenir un petit peu plus les investisseurs, qui auront aussi moins de produits d'épargne faciles, sécurisés, comme un dépôt à terme où ils vont récupérer 3% aujourd'hui, demain ce sera 2, après ce sera 1. Donc ça va les faire changer aussi de réflexion dans leur investissement. Et enfin, les promoteurs doivent aussi, eux, faire leur part de la marche. Et eux aussi, ils doivent baisser, s'ils peuvent, tant qu'ils peuvent, leur prix, de manière à resolvabiliser aussi ces investisseurs. Pas les resolvabiliser, mais rendre l'investissement aussi intéressant. Si vous achetez aujourd'hui un produit dans lequel est déjà capturé les 10 prochaines années de plus-value, en tant qu'investisseur, vous n'achetez pas ce produit. Mmh. Là, il y a une règle financière. Donc, il faut aussi que les promoteurs mettent des produits sur le marché qui correspondent au prix que l'investisseur peut, ce qui donne de l'intérêt à un investisseur.
La réponse paraît évidente, mais elle n'est pas forcément. Vous me parlez donc d'une éventuelle baisse de taux cet été. Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Est-ce qu'on ne craint pas que cela précipite le marché dans une nouvelle spirale de montée des prix?
Non.
Pourquoi?
Non, parce que les gens, les taux ne reviendront jamais à des niveaux comme ils ont été au début 22. Donc aujourd'hui, le consensus du marché est assez clair. Les taux longs vont pas beaucoup bouger. Vous emprunterez dans un an probablement déjà encore à 3,5%, ce qui est un très bon taux aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les taux longs incorporent déjà les baisses prévues de la BCE. Mmh. Les taux variables vont peut-être baisser un tout petit peu, et les taux fixes révisables vont baisser un petit peu, et les taux variables un peu plus. Ils vont rebaisser pour se retrouver à un niveau en dessous des taux fixes. Mais à vous discuter avec tous les experts vraiment de taux, la plupart vous disent qu'un taux variable probable dans 24 mois, ce sera encore 3%. Mmh. Par rapport à 5 aujourd'hui, donc c'est beaucoup mieux. Donc, mais néanmoins, pas du 1,1 comme on avait en 2021.
Mais ce que vous dites indirectement, c'est qu'un peu sur le marché luxembourgeois, c'est un peu les taux d'intérêt qui fixent les prix.
Comme dans tous les marchés.
Bien sûr, qui ont un gros impact sur la demande. Ça c'est logique. Je veux dire, la capacité à pouvoir financer un bien dépend des taux.
Donc, taux et des prix quand même.
Et des prix aussi.
Mmh. J'allais dire, pas uniquement.
En 2008, donc c'est un cycle. En 2008, il y a eu la crise financière. En 2009, la BCE diminue les taux de 4,5 à 1,5. Et c'est resté comme ça pendant plus de 10 ans jusqu'à atteindre 0% pour les taux directeurs. Donc les taux d'intérêt hypothécaire sont calqués sur les taux de la BCE. Mmh. Donc on a eu des taux qui ont été extrêmement bas, mais on ne va pas revenir à des niveaux où l'argent va coûter 0,5 ou 1%. Ça, ça va pas être le cas. Je veux dire, il ne faut pas rêver, entre guillemets, et penser que ça va arriver. Ça va peut-être arriver, mais ça ne va pas arriver demain, ça c'est sûr.
Et dans un environnement de taux de 3 à 3,5%, disons le new normal, clairement, le jeu de la spéculation qui a existé sur les 5 années avant 2022 n'existe plus. Vous n'avez plus d'investisseurs ils vont y aller pour faire des coups. Ce sera que des investisseurs à long terme qui veulent acheter à un prix, qui ne vont pas s'attendre à une plus-value comme ils ont pu obtenir, qu'ils savent que le coût du financement est extrêmement élevé.
Un bon père de famille qui vont avoir des... C'est vrai, quand on parle investisseur, on a toujours l'impression. Un investisseur, ça peut être quelqu'un qui a un bien immobilier, résidence principale, qui a un peu de capital, qui ne veut pas le mettre en bourse, et qui veut investir dans un studio, un petit appartement. On a toujours l'image peut-être de l'investisseur du gros fonds qui vient, qui... je ne dis pas que ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent investir dans la pierre, s'ils ont confiance dans la pierre. Donc ça aussi, je pense qu'il faut favoriser la demande. Vous posiez la question par rapport à qu'est-ce qu'on a vu par rapport aux mesures qui ont été discutées. En tout cas, nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un intérêt. Ça veut dire que les gens qui viennent sur Atome, ils viennent toujours. Mais depuis qu'il y a eu les mesures, il y a eu un regain d'intérêt. En fait, on a remarqué qu'il y a eu plus de trafic à partir du moment où les mesures ont été communiqués, donc sur le début de l'année calendaire, donc janvier, février, c'était très bien. Maintenant, ce trafic doit se concrétiser avec des prises de contact avec les professionnels, qu'ils soient agents ou développeurs, constructeurs, et après, bien sûr, se convertir en transactions. Mais on voit qu'il y a un intérêt qui ne se convertit pas aujourd'hui forcément en transactions. En tout cas, les mesures ont un effet d'attiser la curiosité. Les gens se renseignent beaucoup plus, demandent des questions, veulent savoir ce qui va se passer, mais ne sont pas complètement désintéressés, ça c'est sûr.
Et je crois que les promoteurs devraient profiter de cette fenêtre où les gens sont intéressés grâce aux mesures et qu'ils s'intéressent à nouveau à la pierre pour eux faire leur part du travail et arriver avec des prix ou des adaptations qui leur permettent à ces investisseurs d'acheter, parce que c'est un cycle. Et donc, et c'est aussi important pour les promoteurs de vendre, de vendre, peut-être de dégager moins de marge, ou pour certains, pas de marge, mais d'être existant demain, et de récupérer aussi des liquidités pour continuer à acheter du foncier et redévelopper plus tard. Parce que sinon, il est là le souci aussi, c'est que sinon, le cycle, si vous avez des gens qui ne vendent pas du tout, certains partent en faillite, mais c'est une restructuration qui va prendre des années. Et c'est extrêmement mauvais pour le marché.
C'est vraiment très très important parce qu'il faut presque faire quelque chose de contre-intuitif. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, on se dit non, il ne faut pas y aller, c'est la crise, etc. Mais il faut, de manière contre-intuitive, aller vers quelque chose qui n'est peut-être pas une bonne décision aujourd'hui, d'un point de vue financier, par exemple. Mais quand le cycle va redémarrer, quand ça va repartir, il va falloir construire. Ça va venir, sûr et certain. Mais il va falloir reconstruire. Et des sociétés aujourd'hui qui n'y vont pas, c'est des ouvriers qui vont partir, c'est un secteur qu'il va falloir redémarrer. Mais reconstruire, je veux dire, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et faire repartir la machine va être compliqué. Donc il faut
C'est pour ça que le secteur de la construction était mis en état de crise et qu'il y a eu donc ces mesures de chômage partiel qui ont été mises en place pour maintenir la main-d'œuvre au Luxembourg. Hein, parce que c'est clair qu'après, derrière, bien qu'on ait des milliers de commandes, on ne va pas pouvoir construire s'il n'y a pas la main-d'œuvre derrière. Je vous lance sur un autre sujet. La fondation IDEA qui a récemment dévoilé les résultats de son consensus économique. Consultation regroupant l'avis de 119 décideurs économiques, politiques, de partenaires sociaux et d'économistes. Il s'avère que ces panélistes se sont prononcés en majorité donc, pour une baisse des prix de l'immobilier d'au moins encore 10% en 2024. Est-ce que ça vous paraît souhaitable ?
Oui, mais c'est vrai que la baisse de prix, on peut aussi la voir sur le neuf. Hein. Mais c'est compliqué. Parce qu'on a une très grande hétérogénéité dans les projets. En fait, on parle du neuf, on parle des projets ou de baisse de prix sur le marché du neuf. Probablement que les promoteurs n'ont pas tous les mêmes marges et n'ont pas tous la même capacité à baisser leurs prix hein, selon la date à laquelle ils ont acquis le foncier qui sert de support à un projet. Et je suis persuadé que des promoteurs qui avaient acquis du foncier au plus fort de la surévaluation du marché ou du moment où on avait probablement des prix particulièrement élevés, ceux-là, ils vont avoir des difficultés à baisser significativement leurs prix. Je pense quand même qu'il y a quelques promoteurs qui auraient, sur certains projets, probablement des marges pour baisser un peu leurs tarifs. Et ça, c'est très important parce qu'on ne refera pas démarrer l'activité au niveau de prix actuel pour la raison que j'indiquais tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous êtes un acheteur, et que vous regardez activement le marché, et que vous avez la possibilité de vous positionner sur un bien récent mais pas neuf, bah vous aurez quand même une différence de prix qui sera significative par rapport au fait d'avoir de la VFA. Mmh. Avec en plus des incertitudes, quand vous achetez de la VFA, particulièrement nette aujourd'hui, sur la date d'achèvement, sur le prix final. Mmh. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, pour un acheteur, c'est difficile, particulièrement à primo-accédant, de se positionner sur de la VFA. Mmh. Donc oui, on a des marges de baisse de prix sur le neuf.
Et je crois aujourd'hui que un investisseur, avec l'état actuel des prix, a plus d'intérêt à aller acheter un bien récent, très récent, bien localisé dans le marché existant, plutôt qu'à un bien neuf où là, l'écart de prix est trop important et ne se justifie pas forcément, même avec les mesures fiscales.
Ouais,
moi, je crois que pour répondre à la question de Michel-Édouard, enfin, ou.
C'est pas Michel-Édouard.
C'est pas Michel-Édouard. Ah, d'accord.
C'est les panélistes.
D'accord. Alors, pour des panélistes, moi, je crois qu'une baisse supplémentaire de 10% de l'existant n'est pas du tout souhaitable pour une question plutôt financière, puisque les banques sont quand même très impliquées dans le financement et à un moment donné ça peut poser des problèmes quand il y a des gens qui font des très grosses pertes je pense que dans le neuf, il y aura des ajustements qui vont probablement se faire au niveau dont parle la fondation IDEA et que d'autres ne pourront juste pas contraints, exactement comme le disait Julien.
Je veux dire, dans le contexte, si on regarde aussi en Europe, la baisse de prix en T3 et T4 2023 a été la plus importante en Europe. C'est des records.
Mais on a aussi les hausses les plus importantes.
Mais c'est ça. Ouais. Les hausses, effectivement, auparavant. Cette surchauffe sur 2-3 ans, elle s'est ajustée. Mine de rien, c'est une baisse de prix dont l'amplitude est historique, -9, -10% sur 2023, qui vient probablement nous ajuster les années de surchauffe. Mais derrière... Je veux dire, en remettant les choses dans le contexte, la baisse des prix de 2023 est très très importante. En Europe, les prix sont restés stables. Mmh. Titre de comparaison, le seul pays, la plus forte hausse après Luxembourg, c'est l'Allemagne, -7. C'est quand même, je veux dire, il y a des pays où il y a eu même une hausse de prix, par exemple la Belgique, +3,4. Mmh. Donc là aussi, c'est assez significatif. Au Luxembourg, quand ça va vraiment trop bien. Quand ça ne va pas, c'est... Donc il y a eu un ajustement. Mais demander encore une baisse de prix... Il faut voir par rapport à... Je pense sur l'ancien, ça va reprendre, mais encore -10, ça reste quand même assez important. Et puis les marges de manœuvre qui existent sur le neuf. Je veux dire, si vous achetez un terrain qui représente 50% du prix de votre projet, et que derrière vous devez vendre et gagner quand même un petit peu sur ça, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il va falloir que certains gros players puissent jouer le jeu, ceux qui ont acquis du foncier avant cette période, puissent... Je crois faire des gestes et des efforts, mais tous ne pourront clairement pas le faire. Et preuve en est, on a quand même eu des promoteurs et des constructeurs en difficulté qui ont arrêté, qui ont été mis en faillite.
Voilà, la bonne nouvelle, c'est que l'État aussi joue un rôle. C'est intéressant, je pense, c'est d'investir dans du logement et à débloquer des enveloppes significatives qu'il n'avait jamais fait avant. On est quand même dans un environnement où normalement c'est l'État qui construit pour faire du logement social. Cette fois-ci, il rachète des projets auprès des promoteurs privés pour en faire du logement social et les enveloppes sont quand même très élevées. Donc il y a aussi ce qui s'apparente entre une politique sociale et du sauvetage.
Oui, c'est exactement ça. C'est à la fois un soutien au secteur de la construction, mais c'est aussi un investissement pour l'État dans un logement abordable qui est absolument indispensable et dont on manque de façon assez décisive ici. Donc c'est vraiment, quelque part, c'était une opportunité qui a été plutôt bien exploitée et qui, à mon avis, c'était un choix extrêmement judicieux.
Il s'en est pas caché, M. Mach, quand il est passé dans l'émission, il a dit on profite un peu de la situation, tant mieux au final, hein, parce qu'on en a besoin du logement abordable. Ouais. Je crois qu'au Luxembourg, on est un des pays d'Europe qui a le plus petit pourcentage de logements sociaux sur le marché, alors qu'il y a certains pays qui sont autour des 20%. Je crois qu'on est à 2-3, c'est ça?
Bon, on est, disons, peut-être à 3%, mais en tout cas, on est à un chiffre faible. Mais c'est un choix historique qui a été fait par le Luxembourg et qui avait été assumé pendant longtemps. Hein. C'était de favoriser l'accession à la propriété et pas nécessairement le logement locatif social ou le logement social en général. Ça, c'était un choix qui était extrêmement clair et historiquement... Bon, ce genre de choix engage en fait un pays. C'est très compliqué de constituer un stock de logements abordables ex nihilo. Ça prend beaucoup de temps et ça coûte évidemment assez cher.
Et je crois que par contre, on a beaucoup parlé aussi dans votre Labu Limo du logement social, dès que les prix étaient très élevés. C'est vrai, mais on a aussi une population Luxembourg certaine qui est tout à fait capable de payer soit sur la propriété, soit la location des montants relativement élevés. Mais néanmoins, il faut aussi se poser la question de la structure actuelle du marché luxembourgeois. Dans d'autres pays, vous avez quand même des promoteurs privés hein, qui construisent pour le compte du public, et ça va quand même très vite. Et il y a des gens qui sont spécialisés d'ailleurs dans ce type de construction, qui probablement arriveraient à construire avec des cahiers des charges probablement bien allégés, mais si on veut faire du logement social, ce qu'on a besoin, c'est d'un toit, des fenêtres, d'une terrasse, mais pas forcément d'un logement assez luxueux, comme il l'est quand même aujourd'hui sur le logement social luxembourgeois. Donc là, il y a aussi des choses à faire. On est dans une situation très spéciale. Le sauvetage de certains grands projets, je pense qu'il est très utile et il est bien, parce que on est dans un contexte où on a besoin de garder ses capacités de production. Mais demain, il faudra probablement avoir une politique un peu différente, parce que je crois que même le coût d'achat pour du logement social reste élevé.
Oui, on est d'accord. Je suis très content que vous ayez utilisé le mot surévaluation, Julien, parce que ça revient exactement sur ma prochaine question.
L'émission s'appelle la Bulimo. Hein,
surchauffe.
Voilà. Donc, dans un récent rapport de la Commission européenne, il est affirmé que les hausses successives des prix immobiliers de ces dernières années auraient mené à une surévaluation de l'ordre de 63%. Des prix au Grand-Duché. Pour donc retrouver un équilibre, ça impliquerait un ajustement considérable. Alors, qu'en pensez-vous? Je connais un petit peu votre réponse déjà, Pierre, mais qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a besoin d'une baisse de 60% pour relancer le marché ou est-ce que c'est excessif?
Alors, c'est très compliqué d'analyser cette question. Ouais. Ça dépend beaucoup des indicateurs. Certains des indicateurs dans le rapport ne montrent pas une surévaluation aussi importante. Ça dépend, si on regarde ça d'un point de vue purement comparaison, on va dire, avec les fondamentaux de l'économie, autrement dit, ajustement entre offre et demande. Est-ce qu'on regarde la part que représente le coût du logement dans le budget des ménages, donc l'endettement finalement des ménages, ou est-ce qu'on regarde le rapport entre les prix et les loyers? Hein, tout ça, ça donne des tendances un peu différentes. Mais globalement, moi j'ai toujours dit, avant 2019, on me critiquait beaucoup là-dessus d'ailleurs, le fait qu'il n'y avait pas de bulle immobilière au Luxembourg. Parce que je jugeais à cette époque que l'augmentation des prix de 4,5-5%, ça renvoyait finalement à un décalage important entre offre et demande, et qu'on pouvait combler, et que si on comblait en tout cas ce décalage, on retrouverait des augmentations de prix plus modérées. Par contre, j'ai toujours pensé qu'entre 2017 et 2021, il se passait quelque chose qui n'était pas rationnel, parce qu'on avait des fondamentaux quasi identiques et des augmentations de prix beaucoup plus importantes. Donc moi je suis d'avis qu'on a eu une période bizarre sur laquelle il va falloir sans doute réfléchir et revenir. La crise nous oblige aujourd'hui à revenir sur ce qui s'est passé entre 2017 et 2021 avec un regard critique pour ne pas faire les mêmes erreurs et reproduire les mêmes difficultés. Ouais. En sachant, comme je disais tout à l'heure, que je pense que si demain on devait retrouver des augmentations de prix à deux chiffres pendant un ou deux ans, on en serait rendu à un niveau de prix qui ne serait plus acceptable pour une très large majorité des primo-accédants ou des accédants à la propriété, qui ne pourront tout simplement plus entrer sur le marché.
Bien sûr. Non, mais parce que cette étude...
Elle a été critiquée hein, par Michel Audran-Ruben, d'ailleurs.
Mais c'est un peu... je suis absolument pas d'accord avec ça. Le raisonnement de Julien est tout à fait logique. Jusqu'en 2017, vous voyez la courbe de prix, on est aux alentours de 5%, reflété par un dynamisme de l'économie, une population qui augmente quand même de 50% sur 20 ans, des fondamentaux qui sont assez solides. Donc c'est pas des croissances basées sur du carton. Maintenant, je suis d'accord, pendant 3 ans, on est à base de 15%, notamment sur 2 ans, 2021 et 2022, 19-20, puis 21-22 où ça s'est accéléré. Bien sûr, c'est une surchauffe. Donc on pouvait expliquer peut-être les deux tiers de manière logique, les prix du foncier, la demande, les taux, etc. Il y avait un tiers où c'était...
Les prix du foncier, c'est quelque part pas une composante externe au marché. En fait, il faut peut-être réfléchir, est-ce qu'on n'a pas eu justement une bulle sur le foncier ? Plus qu'une bulle peut-être sur le logement.
Je veux dire, c'est un facteur qui explique et qui était quantifié, quantifiable. Après, il y avait cette partie de ce marché était très attractif et il y avait ces 5 points de pourcentage entre 10 et 15. On s'est dit, y a quand même quelque chose.
Mais moi, je rejoins Julien. La grosse question, c'est la bulle a été plus sur le foncier que sur le logement. Et surtout les promoteurs, certains, qui pensaient qu'on pouvait en vendre, même dans un marché à 1,5, à 15 000 euros le mètre carré. C'est faux. On atteint les limites. Et surtout avec les volumes qu'ils pensaient sortir. Et ça a été la compétition entre eux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de foncier disponible.
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de foncier disponible.
Il y en a peu à vendre.
Il n'est pas rendu disponible.
Mais ça fait partie. Maintenant, il faut prendre ça. Je crois que ça fait partie de la structure du marché. On peut en parler pendant 40 fois. Et on en parle beaucoup, je pense, ici.
Ouais, mais si on ne résout pas ce problème, on retrouvera toujours la contrainte trop forte sur l'offre.
Évidemment, mais on y est. Et je pense que même avec le projet de loi sur l'impôt foncier, qui est la chose qui fera le plus bouger les choses, même dans sa forme actuelle, ça fait bouger les choses dans 8 ans. Donc, ou 7 ans, enfin, voilà, parce qu'au début, les taux sont pratiquement inexistants. Donc, au final, vous avez une structure pendant les 10 prochaines années qui ne va pas beaucoup bouger. Le marché, il ne faut pas penser qu'il va baisser beaucoup plus. Il ne va même pas baisser. L'existant, moi, je pense qu'il va reprendre, soyons très clairs. Et le parc immobilier, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez augmenter en 2 secondes. Ce n'est pas des voitures que vous achetez ailleurs, que vous importez. Donc, on a quelque chose qui est limité. Donc, en fait, malheureusement, aujourd'hui, de se loger au Luxembourg et encore plus être propriétaire au Luxembourg est devenu un produit pour la classe la plus aisée. Et malheureusement, les gens qui ne peuvent pas sont obligés de se déporter et aussi hors frontières pour certains. Et je crois que malheureusement, ça ne changera pas aussi rapidement que tout le monde le souhaiterait. Et même moi-même pour l'attractivité du pays. Et on sait que c'est l'enjeu, mais malheureusement, on est allé assez loin. Et faire retour en arrière sur aussi des prix très bas, il y a aussi plein d'autres conséquences. Et donc, ce n'est pas si simple.
Là, justement, par les prix, c'est les volumes. Il faut construire plus. 3 800 ou 4 000 unités par an pendant 10 ans, alors que la demande ne fait qu'augmenter. C'est, le problème de fond, alimenté par d'autres soucis, le foncier, etc. Font que si on construit pas plus, au final, il faut construire plus.
Mmh. Le nouvel objectif fixé, c'est 6 000 logements par an. On ne sait pas vraiment comment on va y arriver, la question était posée, mais 6 000 logements par an avec le retard qu'on a pris.
C'est 6 000 logements, c'est clair, quand on voit les transactions sur un trimestre, j'ai plus le chiffre en tête.
500 sur une année, quand même, il faudrait 6 000 logements.
On parle de cette année néanmoins,
c'est une année particulière. Mais à titre de comparaison, on est tellement loin que...
Mais 6 000 logements, c'est 65% de plus par rapport à la période 2014 à 2020 par an, qu'il faut sortir. Donc c'est quand même...
Après, il faut être ambitieux.
Il faut être ambitieux.
Il faut viser la lune.
Et voilà. Et même si du coup on arrivait à 5 000 logements, ça serait quand même un très grand changement. Viser haut pour pouvoir être raisonnable. Mais c'est clair que c'est la clé. Je pense pas qu'on ait besoin nécessairement d'un beaucoup plus grand ajustement des prix aujourd'hui. Par contre, ce dont on a besoin, c'est que les prochaines années ne soient pas marquées par des dérapages de prix comme on a pu connaître. Ça, c'est la clé, ça va être d'être capable de maîtriser l'augmentation des prix dans des limites qui sont raisonnables et qui correspondent aux fondamentaux de l'économie et pas revenir sur des augmentations.
Avec des taux qui restent, on a quand même eu des taux historiquement bas, on a eu des choses qui ont aussi alimenté ça.
C'est peut-être le revers de la médaille de la construction européenne pour le Luxembourg, c'est qu'on a eu des taux qui étaient, je dirais, anormalement bas par rapport à ce qu'aurait été le Luxembourg si on n'avait pas eu une politique monétaire unique. On n'aurait probablement pas eu des taux aussi bas sans la Banque Centrale Européenne. Malheureusement, quelque part, le Luxembourg a bénéficié d'une politique monétaire qui était très expansionniste.
Et donc sa sensibilité au taux est extrême aussi, puisqu'il y a aussi beaucoup plus de taux variables dans notre pays que dans d'endroits droits où il n'y en a pratiquement pas d'ailleurs. Et ça, il faut aussi apprendre de cette crise. Il y a des choses qu'il faut changer.
Probablement. Et là, on peut imaginer que la politique d'octroi de crédit à taux variable qu'on a eue juste avant le déclenchement de la crise, bon, on peut la mettre en question hein, quand même. Parce que que les banques elles aient accepté une telle exposition au risque pour des acheteurs, ou qu'elles l'aient même peut-être encouragées parfois, ça c'est vrai que ça peut voilà, ça fait partie des leçons qu'on pourra tirer peut-être de cette crise.
Comme le mécanisme de la garantie d'achèvement aussi. Mais enfin, moi je pense que tout ça va laisser quand même des traces que les gens n'avaient pas, des situations que les gens n'ont pas connues dans les 20 dernières années. Et donc, on va retourner aussi à des fondamentaux auprès des acheteurs et des investisseurs, et qui vont être beaucoup plus précautionneux, à mon avis, dans le futur, et qui feront aussi plus attention quand il y aura des très grosses hausses, et qui feront probablement se dire « Oula, attention, l'histoire nous a aussi dit que ça pouvait aller dans l'autre sens après des très grosses hausses. »
Ce qui est sain, je pense, ce qui est bien.
Je pense aussi. Et c'est la même chose avec les promoteurs, dont certains n'iront pas se positionner sur du foncier s'ils peuvent imaginer que leurs opérations sont basées sur des très fortes augmentations de prix pour les prochaines années.
Et qui pensent que leur projet va sortir de terre assez rapidement, et qui sont malheureusement aussi contraints par toutes les procédures administratives qui sont extrêmement longues et qui ont mis beaucoup de...
C'est un des grands chantiers du gouvernement.
Oui, et ça je pense que aussi, en termes de planification pour eux, ça sera beaucoup mieux. Et c'est des gens aussi qui prennent du risque, hein. Ils travaillent beaucoup pour sortir des milliers de logements normalement par an, et il faut aussi les aider.
J'ai l'impression qu'on arrive tous sur la même conclusion, c'est qu'il ne va pas falloir repartir, en fait, comme ça, la tête baissée, sans s'interroger sur les ressorts de la crise, sur d'où vient cette crise, qu'est-ce qui l'a rendu aussi aigu, et qu'est-ce qui fait que le Luxembourg est, comme le disait Soufiane, vraiment beaucoup plus touché que les pays voisins. Même des pays qui ont des situations, par ailleurs, un peu similaires. En Allemagne, en fait, on a eu aussi des augmentations de prix significatives entre 2010, disons, et 2022. Mais on n'a pas eu l'accélération qu'on a pu observer au Luxembourg entre 2017 et 2022. Donc vraiment, je pense que c'est intéressant.
Est-ce que ça ne résume pas tout simplement un opportunisme quand même? Au Luxembourg, c'est un petit pays. L'info tourne vite. On sait qu'on a vendu à 12 000 euros le mètre carré chez le voisin. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas 13 000?
C'est pas faux. C'est vrai qu'à l'échelle, si on compare à d'autres pays... La stabilité politique, économique, c'est comme un petit aquarium. Hein. Ce qui se passe fait que ça prend des proportions plus importantes. Et l'amplitude de ce qui s'est passé, c'est amplifié. Et puis, l'attrait pour la pierre au Luxembourg, les projets qui sortent, ça a créé un petit peu cette surchauffe ces dernières années. Après, de l'autre côté, je pense à quand même... En venant ici, je suis venu en tram et j'ai vu l'immense pancarte de par rapport à la construction du siège d'ArcelorMittal. C'est énorme. Je me dis, encore des milliers de personnes qui vont venir travailler ici. Les institutions européennes, les Big Four, des centaines de personnes aussi. Donc Luxembourg, j'espère, va repartir, va continuer à être attractif d'un point de vue économique. Mais il ne faut pas qu'on se tire aussi une balle dans le pied, parce que ce qui a fait le succès du pays ces dernières années... peut potentiellement aussi jouer en notre défaveur les 5-10 prochaines années.
Oui, et tout le monde doit faire attention à ses dépenses aussi, et notamment quand on parle de ce siège, il y a beaucoup d'interrogations par rapport au prix payé.
Moi, j'ai juste vu la pancarte, je ne sais pas combien ça a coûté.
Voilà, donc je vous remercie tous les trois, on est arrivé au terme de l'émission. À nos auditeurs, on va se retrouver très vite pour un numéro consacré au logement abordable. À nouveau, Pierre, Julien, Soufiane, un grand merci d'être venus.
Merci.
Merci Gaël.
Merci beaucoup.